Europe Soir Weekend. Lionel Gougelot. Les grandes voix.
Bonsoir les grandes voix. Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication, président de MCBG Conseil. Et Frédéric Dabi est avec nous en studio également. Bonsoir Frédéric, directeur général adjoint de l'IFOP. Alors il a été trouvé in extremis cet accord sur le Brexit. La Grande-Bretagne et les 26 autres pays de l'Union ont évité le fameux no deal. Il y aura donc un accord commercial et de sécurité passé avec la Grande-Bretagne. Mais s'agit-il vraiment d'un accord gagnant-gagnant ou lose-lose, comme disait Michel Barnier, le négociateur en chef? On en débat ce soir avec les grandes voix. Et puis, Emmanuel Macron, ce qu'il n'a jamais dit des Français. Interview fleuve cette semaine à nos confrères de l'Express. Le président de la République se livre sur l'identité française, la mondialisation, la trahison des élites. Tandis que son Premier ministre, Jean Castex, lui, eh bien, il ouvre les portes d'un Matignon intime et familial à nos confrères de Paris Match. L'exécutif, chahuté par la crise, tente de reprendre la main. Mais est-ce que le message imprime vraiment alors que les deux têtes de cet exécutif sont critiquées pour leur gestion de la crise sanitaire? On attend votre analyse ce soir, les grandes voix.
Lionel Gougelot, les grandes voix.
Mais on commence avec vos coups de cœur de la semaine. On va commencer avec vous, Laetitia Krupa. Votre coup de cœur, j'ai l'impression que vous en pincez, pardonnez-moi l'expression, pour Michel Barnier, le négociateur du Brexit, c'est bien ça?
Alors, pour être plus précise, j'en pince pour son heure de gloire, l'heure de gloire de Michel Barnier. Toute la presse salue le politique français depuis deux jours. Pour ne citer que quelques titres, hein, je vous en donne comme ça quatre. Allez, Le Monde, Michel Barnier, la consécration du montagnard, La Croix, le flegme européen, Orange.fr, le négociateur en chef de l'Union européenne, et Le Parisien, Mister Brexit, a-t-il un avenir en France? Et là, je vous propose de nous arrêter une petite minute, car après avoir salué sa ténacité, ses talents diplomatiques, toute la presse se pose déjà la question de qui est Michel Barnier. Bah oui, il a beau être le plus jeune député de France et ancien ministre de Chirac, environnement, affaires étrangères, puis de Nicolas Sarkozy à l'agriculture, il reste peu connu du grand public. Donc là, on peut imaginer qu'à la faveur du Brexit, à presque 70 ans, il va devenir populaire. Enfin, qui sait? Et enfin, deuxième question, mais que va-t-il faire pour la France? Car vous ne l'avez pas raté, j'en suis sûre, aux 20h de France 2, le 24 décembre, il a dit « Je vais maintenant consacrer toute mon énergie à mon pays ». Alors, il n'en fallait pas plus pour affoler la petite sphère médiatique qui déjà a dit qu'il allait arriver au Quai d'Orsay. Alors, Le Drian serait parti en Bretagne pour les régionales. Le Drian a dit niette, pas question. Bon, alors ensuite, on a posé l'hypothèse de sa candidature au régional face à Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, sous les couleurs LREM. Enfin, rien n'est moins sûr. Mais alors, surtout, je vous assure, tout le monde se pose la question. À l'image du Courrier international, est-il un atout ou un rival d'Emmanuel Macron?
Déjà, on se pose la question.
Même, je vous rappelle. Ouais. Et oui, aux européennes, il avait appelé, il s'était prononcé pour François-Xavier Bellamy. Donc, on suppose qu'il y a une petite inimitié. En tout cas, les médias sont partis au galop et le héros français du Brexit, je vous le signe, vient de faire son entrée dans le Gotha politico-médiatique. Il n'est jamais trop tard.
C'est une hypothèse, Michel Barnier, Frédéric Dabi?
Alors, on est vraiment très loin de l'élection présidentielle et je me garderai de trancher là-dessus. Je partage ce que vient de dire Laetitia Krupa. C'est vrai que c'est quelqu'un, Michel Barnier, quand on le testait dans les baromètres de popularité, sous le quinquennat de Jacques Chirac, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il était très populaire et il faut le dire, avec depuis Jacques Delors, c'est un des rares dirigeants politiques à incarner positivement l'Europe pour les Français. C'est vrai qu'il avait disparu des radars pendant ces quatre longues années de négociations sur le Brexit. Alors, un recours pour la droite, bien sûr, personne ne peut le dire aujourd'hui. En tout cas, il a une popularité chez les Français.
Mais votre coup de cœur ce soir, Frédéric, ce n'est pas Michel Barnier, c'est Jean d'Artigue.
Oui, c'est un coup de cœur, Lionel, en forme d'hommage pour Jean d'Artigue. J'imagine que son nom ne dit peut-être pas grand-chose aux auditeurs d'Europe 1. Jean d'Artigue est décédé le 24 décembre. Cet habitant de Vannes était atteint de la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qu'il a combattu pendant 9 ans, alors que l'espérance de vie face à cette maladie dégénérative terrible ne dépasse pas 3 ans. Mais au-delà de cette longévité exceptionnelle, ce qui rend pour moi hors du commun le destin de Jean d'Artigue, c'est la manière dont il a vécu sa maladie. C'est la façon dont il l'a tenue à distance pour transformer son handicap en aventure extrême. Ainsi, malgré les épreuves qu'il a progressivement, au cours des années, fait perdre l'usage de ses jambes puis de ses bras, Jean d'Artigue, excusez du peu, a par exemple traversé l'Atlantique à la voile. Il a participé à un film, il a écrit 3 livres, il est même monté sur scène en 2018 pour un spectacle comique, humoristique sur le handicap. Loin de s'apitoyer sur son sort, il préférait en rire et en faire rire. Il a également présidé l'association pour la recherche contre la maladie de Charcot. C'est dans ce cadre que j'avais eu la chance de faire sa connaissance il y a quelques années. J'avais été frappé, Lionel, par sa volonté à toute épreuve, son humour et le charisme que dégageait cet homme de foi. Le titre de son dernier livre, publié en 2019, « Chaque jour est une vie », « Chaque jour est une vie », résume l'état d'esprit de l'aventurier de la maladie de Charcot. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui.
Ouais, effectivement, un beau message et une belle leçon, effectivement, une leçon de vie de Jean d'Artigue qui nous a quittés donc, à la veille de Noël. Alors, c'est donc une question, on va rebondir sur ce que nous disait tout à l'heure Laetitia Krupa à propos de Michel Barnier et du Brexit, mais revenons quand même quelques instants sur cet accord sur le Brexit. Est-ce que c'est un si bon accord? Est-ce qu'on ne s'est pas réjoui un peu trop vite? Je vous propose d'écouter les mots de Michel Barnier, c'était avant-hier. Loin d'être enthousiaste, il dit, Michel Barnier, qu'un divorce, ça n'est jamais une bonne nouvelle.
Je l'ai vécu avec le sentiment de la mission accomplie, mais en même temps avec une certaine tristesse, parce que c'est une séparation, c'est un divorce. Moi, je pense qu'on est plus faible en étant séparés qu'en étant ensemble. Je pense qu'il n'y a que des perdants dans le Brexit. C'est lose-lose. Donc on a essayé de limiter la casse ou de limiter les conséquences.
Lose-lose, dit Michel Barnier, Laetitia Krupa. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un fond de vérité, finalement, derrière tout ça, ou c'est simplement une question de réalisme?
Non, mais écoutez, Lionel, on nous a de toute façon parlé du Brexit depuis 4 ans, de tout ce processus-là, comme d'un cauchemar. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment renverser la vapeur? Est-ce que pour la Grande-Bretagne, elle a réussi à transformer ce seau dans le vide? Est-ce que finalement, c'est une décision historiquement favorable pour elle? Et puis pour l'Europe, évidemment, au-delà du choc, quel partenaire va être ce peuple anglais? Et finalement, la question, je vais vous dire, moi, je pense que c'est vraiment, elle revient aux Anglais, quelle place veulent-ils avoir dans le monde, entre l'Europe donc maintenant qui sera menée par le duo franco-allemand, et puis les États-Unis, leur allié historique, quel rôle? C'est une question centrale, mais finalement, bien sûr que l'Europe peut aider la Grande-Bretagne à y répondre, mais c'est avant tout aux Anglais, ce sont eux qui se sont prononcés pour le leave, c'est à eux de répondre à cette question.
Frédéric?
Oui, je partage ce que vient de dire Laetitia, il y a, je pense, une indifférence assez forte de l'opinion publique après 4 ans de négociations longues qui sont passées sous le radar des Français entre incertitude, déchirement après le référendum de 2016. 2016, c'est un point de rupture. Il y avait eu, en 2007, dans les enquêtes de l'IFOP, une réaction assez violente des Français vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Une question que l'on posait historiquement, est-ce que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis sont des alliés sûrs? Sur la Grande-Bretagne, après le Brexit, le sentiment que ce pays est un allié sûr passe de 68% à 46%. Maintenant, la question concerne moins les Français que ce que veulent faire les Anglais. Est-ce qu'ils veulent rester sur leur splendide isolement? Est-ce que c'est une île? Est-ce qu'ils veulent pouvoir trouver avec cet accord lose-lose ou win-win une place particulière au sein de l'Union européenne? Les Français, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'ils y perdent ou pas? Avec en plus, en revanche, on pourra peut-être en parler, un point de fixation très symbolique, la question des pêcheurs.
Ouais, mais Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il n'a pas été survendu, vous, le spécialiste en communication, cet accord sur le Brexit?
Oui, certainement, parce que tout le monde a intérêt à être gagnant. Donc, à la fois, les Européens, Michel Barnier, ont envie d'être gagnant dans cette histoire parce qu'il ne faut pas perdre la face. Et à la fois, la Grande-Bretagne a envie d'être gagnant parce que Boris Johnson est dans une opération d'image en ce moment. Et il veut montrer l'image d'une Grande-Bretagne conquérante qui arrive à maîtriser le virus avec une politique de vaccination, qui fait très attention avec le nouveau variant. Dès qu'il se passe quelque chose, en gros, il est présent et il agit. Et il veut vraiment donner l'impression que la Grande-Bretagne est en train, comme d'autres puissances moyenne, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, d'entrer dans la modernité et de s'affirmer. Donc chacun dit qu'il a gagné, mais en fait, c'est le temps qui dira ce qui a été réellement gagnant dans cette histoire. Mais c'est une bataille d'image avant tout, là, auquel il se livre.
On entend dire que le véritable choc économique pour les Britanniques, il est encore difficilement évaluable. C'est-à-dire qu'il pourrait être pire que prévu, finalement.
Ça, on ne sait pas, parce qu'il y a, quand même de la part de Boris Johnson et des négociateurs une certaine habileté, c'est-à-dire qu'ils ont négocié en bilatéral quasiment tous les traités qu'ils étaient supposés avoir perdus. Donc, et puis économiquement, ils dépendent beaucoup aussi de leurs échanges avec les États-Unis. Alors, le fait d'être détaché de la de l'Union européenne peut aider paradoxalement la Grande-Bretagne à se réattacher ou à revenir complètement sous le giron américain. Économiquement, ce n'est pas forcément une mauvaise opération non plus s'ils ont l'intention de jouer cavalier seul au plan fiscal, de devenir ou redevenir un paradis fiscal de leur côté. Enfin, ça peut aussi leur donner beaucoup plus de liberté pour faire du commerce aux portes de l'Europe, même si ce ne sera pas forcément du commerce très moral, entre guillemets.
Je voudrais vous entendre, les grandes voix, sur la question Erasmus. Alors, ça peut paraître comme ça accessoire, mais... Les étudiants européens ne pourront plus aller en Grande-Bretagne dans le cadre de ce splendide projet qui était Erasmus. Est-ce que ce n'est pas un énorme gâchis pour la jeunesse européenne, Frédéric ?
Je pense que oui. Quand on interroge les Français sur l'Europe, aujourd'hui, il y a deux perceptions qui sortent. Chez les personnes de plus de 50 ans, c'est l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est ces accords depuis les années 50, depuis Jean Monnet, depuis toute une série de constructeurs de l'Europe. De faire ce continent un continent de paix. Pour les jeunes, l'Europe, ce sont les déplacements, ce sont les voyages, donc d'où le contexte particulier que l'on vit, et c'est Erasmus. Bien sûr, ça ne pourra pas ne pas avoir des conséquences. N'oublions pas que les jeunes constituent un des segments les plus europhiles de la population française. Ils avaient pourtant voté non au référendum du 29 mai 2005, donc c'est peut-être un vrai sujet. Pour les jeunes, c'est la question des voyages, de l'Erasmus. Pour l'ensemble des Français, il va sans doute avoir un enjeu important sur les pêcheurs qui... Dans l'imaginaire des Français, s'apparente à une catégorie de population, de profession sacrée, un peu comme les agriculteurs.
Et plus des pêcheurs qui ont, d'une certaine façon, limité la casse à l'occasion de cet accord sur le Brexit. On marque une pause dans ce débat des grandes voix. On se retrouve derrière la publicité pour évoquer le couple de l'exécutif Emmanuel Macron et Jean Castex dans la presse cette semaine.
Europe Soir Weekend. Lionel Gougelot. Les grandes voix.
Retour en compagnie des grandes voix du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Laetitia Krupa, Frédéric Dabi et Philippe Moreau-Chevrolet. Allez, pour vous cette question, Philippe, cette interview fleuve d'Emmanuel Macron cette semaine dans l'Express. Jean Castex qui ouvre les portes d'un Matignon intime dans Paris Match. C'est une simple coïncidence ou il y a derrière une stratégie de communication pour reprendre la main en ces temps de crise ?
Ah non, c'est clairement une stratégie de communication. Alors, elle est plus lisible du côté de Jean Castex que d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait fait une très bonne communication depuis la lanterne avec son téléphone portable avec une très grande simplicité. Il aurait pu en rester là dans la période. Il a tenu à faire en plus une interview un peu programmatique, surtout destinée aux élites parisiennes, hein, pour dire voilà quels sont mes axes. Donc on sera clairement à droite, on va être clairement gauche républicaine, mais en même temps pas trop parce qu'on essaie d'être de flatter un tout petit peu les indigénistes. Enfin bref, il essaie de faire un peu un lit idéologique qui pourrait l'aider pour 2022. C'est un choix un peu étrange, un peu décalé, parce que ce n'était pas complètement nécessaire. Jean Castex, par contre, lui, c'était totalement indispensable parce qu'il a vraiment du mal à imprimer dans l'opinion. Et donc, il essaie de travailler. Alors, le choix de se photographier de manière intime dans un cadre qu'il n'est pas du tout, c'est assez étrange. C'est-à-dire intime chez lui, pourquoi pas. Intime à Matignon, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme si vous faisiez photographier Europe 1 et qu'on disait, ben voilà, je vous présente en toute intimité mon portrait dans les locaux d'Europe 1. Ce ne serait pas... complètement intime, vous voyez, on connaîtrait un petit peu mieux, mais on n'aurait pas l'impression d'être chez vous. Là, c'est un peu pareil, ce qui fait qu'on a les ors de la République avec quelqu'un qui a l'air sympathique en jogging, sans lunettes, hein, parce qu'il faut le sortir de son image de techno et essayer de le montrer un peu plus terrien. Bon, bah, Paris Match, c'est très bien pour ça, parce que c'est vraiment un magazine qui est très très grand public et que tout le monde lit.
Frédéric Dabi, ça fonctionne ce type de communication ? Ça imprime encore dans l'opinion ?
En tout cas, ça ne renverse jamais une situation de popularité ou d'impopularité, mais ce sont des petits cailloux. Et je partage ce que vient de dire Philippe. On a une situation pour les deux têtes de l'exécutif extrêmement différente. Emmanuel Macron a été stable en popularité tout au long de cette année 2020. Son équation électorale fonctionne toujours. Il y a toujours, dans notre dernière enquête IFOP JDD, le soutien de trois quarts de son électorat, d'un électeur de droite sur deux, d'un tiers de sa passe en gauche. C'est différent pour Jean Castex qui peine à trouver sa place dans le dispositif gouvernemental de crise. Il est arrivé tardivement dans cette crise. Et puis, clairement, et là, le levier Paris Match prend toute son utilité. On a vu dans nos enquêtes qualitatives un glissement de son image. On est passé au mois de juillet-août à cette image d'un élu local proche des territoires à un technocrate plutôt déconnecté et qui a géré administrativement la crise avec tous les défauts prêtés à l'administration, le souci du détail, un jargon. Donc il avait besoin de se rapprocher des Français et montrer qu'il tenait la baraque du gouvernail France.
Laetitia Krupa, à travers cette campagne, on va dire, de communication, ce que l'on voit en creux, malgré tout, le constat, c'est que le gouvernement n'est pas parvenu à rassurer les Français dans cette crise sanitaire. On dirait qu'il y a quelque chose de définitivement rompu dans le ressort de la confiance. Est-ce que je me trompe ?
Oui, en fait, ça, ce sera Frédéric qui le dira mieux que moi. C'est vrai que les indices, à chaque fois qu'on questionne les Français, les indices de confiance sont toujours très bas. Et ces deux campagnes, en fait, de communication ont le même objectif, puisqu'il s'agit de questionner leur relation de Castex et de Macron aux Français. Donc, finalement, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve que ça se superpose d'une façon un peu étrange, parce que ça s'auto-détruit. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est pas du tout efficace. Alors, pour Jean Castex, Paris Match, bof. Franchement, ça ne convaincra que déjà ceux qui sont déjà convaincus. Enfin, je veux dire, il s'adresse déjà à sa base, aux gens qui le connaissent et qui peuvent l'apprécier. Je trouve que c'est vraiment aucun courage, là, pour le coup, dans la communication. Et pour l'efficacité, j'en doute fort. Et puis Emmanuel Macron, Philippe a raison, quoi. Je veux dire, 14 pas, qui va lire cette interview à part les journalistes et puis, vous êtes gentil, Philippe, quand vous dites les élites parisiennes. Enfin, moi, je dirais un tiers des élites, vu la période. Donc, vraiment, je me pose la question. Macron, il est de toute façon, il sature déjà l'espace médiatique. Donc, il avait parlé, vous savez, rappelez-vous quand il était arrivé à l'Élysée, de causerie au coin du feu. Vous voyez ce concept. Finalement, il l'a jamais fait en radio et il se sert de la presse, puisque moi, je note trois grandes interviews. Le Point, quand il est quand il a été élu. Ensuite, Valeurs Actuelles, là, le tournant transgressif, virage à droite, sécuritaire. Et puis maintenant, l'Express, première profession de foi pour entrer dans la campagne. Mais enfin, je sais pas à qui s'adresse, je sais pas si c'est très efficace, je ne sais pas si les Français seront davantage confiants après cela.
Mais quand il parle de cette société qui s'horizontalise, du nivellement des valeurs, de la déconstruction des discours...
Il est hyper bon. Hein ? Ouais. Il est très bon.
Ah bah voilà, Emmanuel, là vous Macron le trouvez convaincant.
Je vais vous dire un truc, il est très bon dans le constat, Emmanuel Macron. Très bon dans le constat. Quand il parle de cette société, ces débats où finalement tout le monde parle en permanence, voilà. Mais personne ne débat vraiment,
la
ça s'entrechoque.
La société du commentaire permanent, c'est dit-il.
Émotion contre émotion. Bah oui, mais enfin, il y participe. Mais bon, au-delà de ça, il est très bon dans le constat. Mais dans l'opérationnel... C'est un peu plus compliqué qu'on soit convaincu après. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment testimonial.
Philippe Moreau-Chevrolet, oui.
François Hollande disait il ne faut pas être un commentateur. D'ailleurs, il ne faut pas être un commentateur, il faut être un acteur. Et il le disait alors qu'il était tout le temps en train de commenter l'actualité, qu'il donnait le sentiment de plus commenter qu'agir lui-même. Donc c'est toujours le défaut des présidents français, c'est qu'au bout d'un moment, ils deviennent très bavards. Moi, je ne suis pas du tout pour la rareté, mais je suis pour une forme d'économie quand même, essayer de parler quand c'est utile. Et là, c'est vrai qu'il parle beaucoup, c'est très intelligent comme constat, tout le monde peut le faire, donc pourquoi pas. Mais ça ne va pas avoir un grand impact politique. Moi, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est qu'ils ne saisissent pas la vaccination pour en faire un outil de communication évident, ce que font tous les voisins, même le président d'Arabie, le roi d'Arabie Saoudite s'est fait vacciner aujourd'hui devant les caméras. Donc même dans des régimes autoritaires, on se fait vacciner, on se filme en train de se faire vacciner, Joe Biden l'a fait. On pourrait imaginer une très jolie opération de communication avec du courage. On montre qu'on croit au vaccin, on l'accueille, on se fait vacciner dans un EHPAD avec les gens pour montrer qu'on est là avec eux. Enfin, il y aurait quelque chose de vraiment intéressant à montrer.
On peut communiquer
sur un exécutif totalement tétanisé.
On peut communiquer sur la vaccination, mais si on annonce un reconfinement dans un mois, tout tombe par terre.
Non.
Non, parce qu'au moins on a donné un espoir aux gens. Parce que là, pour l'instant, on va vraisemblablement, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un reconfinement et on ne donne aucun espoir. On ne leur dit pas que la vaccination arrive, que ça va être bien, que ça va nous aider à nous en sortir. Alors, c'est pas possible d'avoir un discours comme ça aujourd'hui. On a un vaccin, soit il est intéressant, il faut l'utiliser, soit on ne l'utilise pas du tout, mais on ne peut pas être entre les deux et ils sont entre les deux.
Frédéric.
Oui. C'est vrai que là, on a un peu glissé de l'interview de l'Express au vaccin. C'est vrai que les Français ont besoin d'un cap, d'un cadre. Ce qui a plu dans l'intervention présidentielle du président du mois de novembre, c'était le cap 28 novembre pour les commerces. 15 décembre, déconfinement. 20 janvier, même si maintenant c'est assez, c'est malheureusement peu probable pour l'ouverture des bars et des restaurants. Et c'est vrai que là, l'interview de l'Express contribue à une certaine saturation. L'impact sera fait, mais peut-être Emmanuel Macron voit la faiblesse en ce moment de sa popularité. Je disais qu'elle était stable, qu'elle ne bougeait pas, qu'elle était extrêmement solide, c'est un véritable glacis, mais il y a un des moteurs du macronisme qui est maintenant complètement à l'arrêt avec cette crise, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la transformation. Peut-être que cette interview, c'est une première étape dans la perspective de 2022, parce que là, il se présente presque comme un président presque candidat, même si il a dit qu'il ne le serait peut-être pas. C'est réenclencher cette transformation, ces réformes qui lui assurent le soutien de sa base électorale et d'une partie de sa base en droite. Comme le dit Philippe, c'est vrai, la vaccination pourrait être un moment formidable de volontarisme, de pédagogie et de cadre pour les Français qui restent fatigués, épuisés par cette année 2020 et qui attendent une capacité de se projeter dans la France d'après le Covid.
Les Français supporteront-ils un troisième confinement, Laetitia, Philippe ?
Ça, c'est compliqué à dire. Pour l'instant, c'est justement, je pense qu'ils veulent parler aux Français, à la fois Jean Castex et Emmanuel Macron. Ils ne le font pas du tout. Là, ils sont cornerisés et ils ne parlent qu'à leurs proches, qu'à leur base, qu'à leur monde. Or, on ne cesse de reprocher aux deux têtes de l'exécutif d'être déconnectés. Bien que Jean Castex se soit présenté comme l'homme des territoires, il ne l'a pas prouvé. Donc aujourd'hui, il s'agit d'être dans le concret, dans le quotidien. Vous avez tout à fait raison de poser la question. La question, c'est après Noël, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on est reconfiné ? Qui va être vacciné ? Quand on pourra peut-être entrevoir la fin du tunnel ou au moins une lueur d'espoir. C'est de ça qu'il faut parler aux Français. Ce n'est pas Pétain et Maurras. Enfin,
ou de la société qui s'horizontalise.
J'ai l'impression qu'on est complètement déconnecté là.
Le reconfinement, Philippe, oui. ça va être un traumatisme, mais ça va être plus que ça, parce que ça veut dire pour les restaurateurs différer encore la réouverture. Ça veut dire pour les acteurs culturels qu'on va leur différer encore la reprise d'activité. Ça veut dire qu'on va dépenser des milliards et des milliards en relance économique. Donc, ce n'est pas seulement l'effet moral sur les Français. C'est juste qu'à bout d'un moment, effectivement, on risque d'avoir des gens qui vont dire « Non, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, si vous ne nous donnez pas de perspective, on va simplement désobéir. On va faire on va reprendre une vie normale. Et puis, voilà, tant pis. » C'est ça le risque, c'est qu'au bout d'un moment, ça se casse, la relation se casse complètement.
Un dernier mot, je vous demande vraiment quelques secondes sur la réflexion qui est faite par Emmanuel Macron, toujours dans une interview à l'Express. Nous sommes, dit-il, l'un des pays européens qui se porte le mieux face à l'épidémie.
Alors, c'est quand même un discours que les Français écoutent plus. Là, il y a une logique d'exonération avec le sentiment que la France va un peu moins mal que les autres, alors même que pendant le premier confinement, les Français, pour critiquer l'exécutif, mettaient en avant la réussite du modèle allemand ou bien le modèle suédois.
Je vous ai entendu sourire, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, alors on peut dire qu'on va... si vous voulez, c'est quand je me regarde, je suis inquiet, quand je me compare, je me rassure. Moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter ça parce qu'on a quand même besoin de voir la situation un peu mieux que ce que les Français voient. Les Français voient toujours le pire. C'est le peuple le plus pessimiste d'Europe. C'est bien de réinjecter un peu d'optimisme quand même. Sinon, on va tous se laisser mourir, quoi. Donc oui, on peut voir que ça, c'est mieux que certains. Mais moi, ce qui m'accable vraiment, c'est qu'à ce stade, on sait comment on maîtrise le virus dans les pays qui fonctionnent comme la Corée du Nord, Taïwan et d'autres pays, ou la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et on n'applique toujours pas les prescriptions de ces pays-là, le contrôle aux frontières, le fait de purifier l'air dans l'intérieur, notamment dans les écoles. Ouais. Moi, ce qui me navre, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs.
D'accord. Merci les grandes voix. On se retrouve demain, même heure, sur Europe 1 pour partager, réfléchir ensemble sur les grands thèmes de l'actualité qui vous font réagir.
Europe Soir Weekend, Lionel Gougelot.